Savez-vous pourquoi je n'écoute plus la TV et la radio ? Une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Ben oui, c'est un scoop aujourd'hui, donc écoutez bien. Mais une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, ça datait de 1982, et c'était de me débrancher des réseaux de diffusion médiatique, qu'il s'agisse de la télévision ou de la radio. Ça veut dire que depuis 1982, je ne regarde pas la télévision. Je n'ai pas de télévision branchée sur une antenne, sur un câble ou sur une parabole. Oui, j'ai une télévision pour regarder des films de temps en temps, une fois par semaine, mais depuis 1982, j'ai pris cette décision que je n'ai jamais regrettée et dont je suis extrêmement satisfait et extrêmement fier. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à poser cet acte assez, assez minoritaire et assez subversif, je dirais, aux yeux de certains? Eh bien, c'est essentiellement 6 raisons. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui, en toute simplicité, les 6 raisons qui ont fait que j'ai décidé de me débrancher en 1982. Alors évidemment, vous êtes totalement libre, comme d'habitude, de faire ce que vous voulez de votre vie, mais je vous invite, en tout cas, à poser un regard différent sur la télévision, de poser un regard différent sur les médias qui occupent peut-être une place trop importante au cœur de votre vie. Alors, la première raison pour laquelle j'ai pris cette décision de ne plus me brancher sur les réseaux médiatiques, c'est que c'est chronophage. Ça consomme du temps. Hein, vous le savez, j'y ai déjà fait allusion dans une autre vidéo dans ma chaîne YouTube, c'est que, en moyenne, en Europe ou aux États-Unis, chaque personne de plus de 12 ans passe, en moyenne, 4 heures par jour, tous les jours, devant leur poste de télévision. Et ça ne prend même pas en compte le temps passé sur les médias sociaux, le temps passé à répondre à des courriels, etc. Juste 4 heures devant le poste de télévision. Si vous faites le compte, 4 heures, ça fait un 1/6 de journée. Donc, ça veut dire que chaque journée de 24 heures, vous passez 4 heures de votre temps éveillé à être devant un poste de télévision. Si vous avez une espérance de vie de 78 ans, ça veut dire qu'un 1/6 de votre vie, c'est-à-dire 13 ans, est passé 24 heures sur 24 devant votre poste de télévision. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes incarné sur cette terre? C'est une question que je vous pose. En tout cas, c'est une question que je vous demande de vous poser. Est-ce que vous êtes né en tant qu'être humain pour vous abrutir 4 heures par jour, ou pour vous abrutir 13 ans de votre vie, 24 heures sur 24, devant un écran cathodique. Enfin, maintenant, les écrans ne sont plus cathodiques, ce sont maintenant des écrans LCD et bientôt ce seront des écrans en 3 dimensions, mais peu importe, c'est la même chose. Est-ce que c'est vraiment pour ça que vous êtes venu sur Terre? La réponse personnelle que j'ai faite depuis longtemps à cette question, c'est « Je suis ici sur Terre pour faire quelque chose de ma vie qui soit plus intéressant que d'être passivement devant un écran de télévision ». Deuxième raison pour laquelle j'ai décidé en 1982 avec ma première femme de ne pas avoir de télévision, c'est que les médias, il faut quand même le reconnaître, entretiennent essentiellement un climat de peur, un climat de terreur. On nous entretient tous les jours au journal télévisé de toutes les catastrophes possibles, imaginables, qui arrivent dans le monde. Est-ce que vous avez des journaux télévisés qui vous racontent les choses qui vont bien? Est-ce qu'on vous raconte à la télévision lorsqu'une entreprise vient d'embaucher 500 nouvelles personnes? Non, mais par contre, quand une entreprise vient de licencier 35 personnes, là, on va vous en parler pendant 3 minutes. On va vous parler des actes de terrorisme. On va vous parler du réchauffement climatique. On va vous parler de la peur du chômage. On va vous parler de la menace de la grippe aviaire ou de la grippe H1N1 ou que sais-je encore. En permanence, on entretient la population dans un climat de peur qui va faire que cette population va être de plus en plus terrorisée, va être de plus en plus paralysée et donc va être de plus en plus manipulable. Je suis désolé, mais à cette tentative de me maintenir dans un climat de peur, cela fait longtemps que j'ai dit aux médias « non merci ». La troisième raison pour laquelle j'ai décidé de me débrancher des médias, c'est que je savais qu'un jour ou l'autre, en 1982, je n'étais pas encore père de famille, mais je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais peut-être des enfants. J'avais envie d'avoir des enfants, et effectivement, j'ai eu 3 filles. Et je voulais protéger mes enfants de cette influence négative de la télévision. Beaucoup de chercheurs ont écrit des livres qui malheureusement ne passent jamais dans les médias et dont on ne fait jamais la publicité dans les médias, et pour cause. Beaucoup de chercheurs ont montré que la télévision apprend aux enfants d'une part à tuer, apprend aux enfants à se désensibiliser par rapport à l'acte de tuer. Mais il n'y a pas que ça. D'autres chercheurs en psychologie ou en développement de l'enfant ont démontré que lorsqu'on expose les enfants dès le plus jeune âge devant une télévision, parce que ça coûte moins cher qu'une babysitter, parce que c'est moins prenant en termes d'activité que de s'occuper d'un enfant et de le mener au parc public pour lui faire faire de la balançoire, pour lui faire sauter à la corde, pour jouer à un jeu de construction avec lui, eh bien on se rend compte que quand un enfant est exposé dès le plus jeune âge à un poste de télévision en guise de babysitter, eh bien, on va handicaper l'enfant et on va lui enlever la possibilité de créer un certain nombre de connexions neuronales, surtout au niveau du tronc cérébral et au niveau du cervelet. Savez-vous que tout le développement cognitif de l'enfant passe d'abord et avant tout par tous les gestes primaire qu'il va faire, qu'il s'agisse du geste de téter, qu'il s'agisse du geste de ramper, qu'il s'agisse du geste de prendre ses doigts de pied dans la bouche, etc., etc. Il y a des chercheurs comme Steiner qui ont fait de grandes démonstrations là-dessus. Il y a des chercheurs aussi comme Padovan qui ont démontré que lorsqu'on prive les enfants de ce développement psychomoteur, eh bien les enfants vont avoir un déficit au niveau du câblage de leur tronc cérébral et de leur cervelet. Avec comme conséquence que plus tard, les enfants vont avoir un déficit d'attention, vont avoir un déficit de concentration. Pourquoi ? Parce que le cortex qui est normalement dédié aux activités cérébrales, aux activités cognitives, va devoir prendre le relais de ce qui n'est pas pris en charge par le tronc cérébral et par le cervelet, parce qu'ils n'ont pas été câblés de la bonne façon, parce que les enfants n'ont pas eu l'occasion de bouger suffisamment dans leur plus tendre enfance. Et ça, c'est vraiment dramatique. C'est quelque chose que quasiment personne ne sait. C'est-à-dire qu'en laissant votre enfant de façon passive devant un poste de télévision depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge de 7 ans, vous êtes en train de créer la source de son incapacité à se concentrer, de son incapacité à raisonner, de son incapacité à parler convenablement, à avoir une bonne orthographe, à avoir une bonne façon de calculer. Et ça, ce sont des choses que je n'invente pas, ce sont des travaux qui ont été faits par des chercheurs qui ont démontré le lien entre l'exposition à la télévision et ses déficits intellectuels et ses troubles de l'attention. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y a une épidémie de TDAH hein, ou de TDAH, parce qu'effectivement, les enfants n'ont pas été câblés convenablement. C'est dommage, hein? Mais voilà, moi, en 1982, je n'avais pas toutes ces informations, mais je voulais au moins protéger mes enfants de cette influence absolument négative de la télévision. Du coup, mes 3 filles sont devenues de très grandes lectrices, sont devenues très cultivées, ont une capacité à bien se concentrer là où d'autres enfants du même âge ou d'autres adultes du même âge, parce que maintenant mes filles sont adultes, n'ont pas autant de capacité qu'elles n'en ont. Et n'ont pas autant de goût de la lecture qu'elles n'en ont. 4e raison pour laquelle j'ai décidé volontairement de me débrancher des réseaux médiatiques, c'est que très jeune, au moment où j'étais étudiant à l'université de Namur, très jeune, j'ai compris que les médias étaient des instruments de propagande et de mensonge. Hein, ça me fait penser à cette fameuse phrase de Thomas Jefferson qui disait « Dans la presse, Seules les publicités disent la vérité. Moi, je trouve ça extraordinaire comme phrase. Dans la presse, seules les publicités disent la vérité. Et c'est vrai que quand les publicités disent « Regardez, ma voiture est la plus belle du monde », etc., ben, c'est quelque chose qui est plus vrai que la plupart des choses que l'on entend dans les médias. Alors, vous allez me dire « Attends, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu racontes là ? T'es encore dans la théorie du grand complot ?» Mais attendez, moi, je me base sur des faits objectifs. Savez-vous, par exemple, ça, c'est une des choses que j'avais apprises en 1980 lors d'une conférence donnée par un observateur géopolitique qui connaissait très bien les États-Unis et qui était venu donner une conférence à l'université de Namur. Il nous racontait que 40% du budget occulte de la CIA. Hein, donc 40% du budget occulte. Alors vous allez me dire, ah bon, la CIA a un budget occulte, vous n'allez quand même pas me faire croire que vous ne le savez pas. Hein, ça se voit dans tous les films d'Hollywood que la CIA a des opérations secrètes qui ne sont pas financées par le Congrès américain, mais dont on ne vous parle évidemment jamais. Alors, comment est-ce que la CIA se finance ? Ben, c'est en contrôlant le trafic de drogue international, c'est-à-dire que le plus grand dealer de drogue du monde, c'est la CIA. Et avec tout cet argent recueilli par la CIA, eh bien, 40% du budget occulte de la CIA est utilisé exclusivement à la manipulation de l'information diffusée par les agences de presse internationales. C'est intéressant quand même comme information. Alors, et c'est vrai que quand vous regardez, quand vous écoutez la manière dont les journalistes répètent tous les mêmes rengaines, on se pose parfois des questions sur la conscience professionnelle qu'ont les journalistes. Mais j'ai eu plusieurs amis très intimes qui étaient journalistes et qui me disaient qu'effectivement, ils étaient tenus à ne diffuser que certaines informations et à ne pas diffuser d'autres informations. J'en ai moi-même fait les frais puisque j'étais la coqueluche de beaucoup de journalistes de radio, essentiellement à l'époque où j'ai publié mes premiers livres sur les jeux de pouvoir, sur l'éducation des enfants, sur les relations de couple, sur la communication, sur être pleinement soi-même, etc. Je vous jure, j'étais la coqueluche des journalistes parce que les journalistes adoraient ma façon de parler, de vulgariser les choses de façon simple, ils adoraient ma voix, ils trouvaient que j'avais une très belle voix radiophonique. Le jour où j'ai eu le malheur de sortir mon premier livre qui critiquait, qui remettait en question la pertinence de la vaccination, la première fois que j'ai eu le malheur de critiquer les pratiques de certaines pratiques de la médecine et certaines pratiques de la cancérologie, comme par hasard, du jour au lendemain, je n'ai plus jamais été invité dans aucune émission de radio en Belgique, en France et en Suisse. Intéressant quand même, hein? Et on peut se demander, mais comment ça se fait? Mais vous savez, regardez à qui appartient la presse aujourd'hui, à qui appartiennent les médias. Eh bien, les médias appartiennent à des holdings. Et ces holdings détiennent des entreprises dans d'autres secteurs, qui sont des secteurs pharmaceutiques, les secteurs de l'agroalimentaire, des secteurs dans le monde de l'énergie. Et ce n'est pas étonnant de se rendre compte que dans les médias dominants, on n'entendra jamais des émissions qui vont remettre en question certaines pratiques médicales, qu'il s'agisse de la vaccination, de l'usage intensif de certains médicaments ou d'autres choses. Vous n'entendrez quasiment jamais dans les médias des émissions remettre en question le dogme de l'agroalimentaire et la toute-puissance de Monsanto. Ou peut-être de temps en temps un petit documentaire qui va passer à 3 heures du matin. Pourquoi d'après vous ? Ben parce que ces holdings détiennent des intérêts dans les compagnies agroalimentaires, donc ces holdings ne vont pas en même temps permettre à des médias qui leur appartiennent aussi de critiquer la médecine, de critiquer l'agroalimentaire ou de critiquer la manière dont l'énergie aujourd'hui est gérée sur la planète. Donc, pour toutes ces raisons-là, je n'ai pas envie d'être désinformé. Dans la presse, seules les publicités disent la vérité. Alors, en parlant de publicité, justement, je me souviens de cette fameuse déclaration d'un des PDG de TF1 il y a quelques années qui disait « Notre métier à nous, c'est de donner à Coca-Cola des minutes de cerveau disponible. Et je pense que cette déclaration faite par le PDG de TF1 était très lucide et en même temps très cynique, en disant finalement, on se casse la tête pour faire des programmations qui captivent et qui capturent le public, juste pour une chose, pour les rendre disponibles au moment où il y a les pauses publicitaires. C'est-à-dire que finalement, on va essayer d'avoir les meilleures émissions possibles, les émissions les plus attirantes possibles, que ce soit des jeux, que ce soit des séries télévisées, etc., etc., pour que les gens soient préparés à recevoir les messages publicitaires des annonceurs qui financent, évidemment, et qui permettent à une chaîne de continuer à vivre. Donc, à partir du moment où une chaîne médiatique dépend de la publicité, il est clair aussi que les annonceurs vont aussi dicter aux journalistes les émissions qui peuvent passer et les émissions qui ne peuvent pas passer. Sixième raison pour laquelle j'ai décidé de me débrancher des médias, c'est que les médias sont des outils de distraction, des outils de divertissement. Alors, c'est intéressant de regarder « distraction » au niveau étymologique. Hein. Bon, il ne faut même pas avoir fait du latin pour entendre « distraction hein, », c'est « tirer au loin hein, », comme dans « distance hein, », c'est « distraction », c'est « tirer loin de ».« Divertissement », là, au niveau étymologique, c'est « divertere ».« Vertere », c'est « se tourner hein, », et « divertir », c'est « se tourner loin de ». C'est-à-dire qu'en fait, un outil de distraction, un outil de divertissement, c'est un outil, c'est un processus qui va me tirer loin de ce que je suis moi. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais quand quelqu'un dit « Oh, ça ne va pas toi dans ta vie, allez, viens, on va aller se distraire », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, viens, on va faire en sorte que tu sois loin de ta réalité pour ne plus penser à ton malheur, pour ne plus penser à ta douleur que tu es en train de vivre. Alors qu'en réalité, si on est déprimé, si on est triste, si on est mal dans notre peau, ce n'est pas en allant loin de ce que nous sommes que nous allons pouvoir guérir ce mal-être intérieur. C'est au contraire en regardant l'indicateur de mal-être que nous allons prendre action et que nous allons transformer quelque chose dans notre vie. Alors, maintenant que je vous ai donné ces six raisons, vous allez me dire « Bon, ben alors qu'est-ce qu'on peut faire finalement ?» Et je vous dirais, vous faites ce que vous voulez finalement. Hein? Vous pouvez vous désabonner. Vous pouvez vous désabonner. Il n'y a personne qui va venir vous menacer d'une arme si vous vous désabonnez de la télévision. Et vous allez voir à quel point votre vie va changer. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais faites un jeûne médiatique pendant un mois. Et posez-vous la question, dans un mois, qu'est-ce que j'ai eu de plus à ne pas regarder la télévision et surtout à ne pas regarder les nouvelles déprimantes tous les jours qui m'entretiennent dans ce climat de peur? Et qu'est-ce que j'ai de moins maintenant que je ne sais plus ce qui se passe dans le monde au niveau du terrorisme, au niveau des catastrophes aériennes, des catastrophes... Écoutez, franchement, au niveau des catastrophes aériennes, par exemple, si vous êtes dans l'avion, ben vous serez au courant assez vite que l'avion s'est crashé. Bon, parfait, et on ne peut plus rien faire pour vous. Mais si vous n'étiez pas dans l'avion, qu'est-ce que ça change dans votre vie de savoir qu'un avion s'est crashé, si ce n'est d'augmenter votre stress et si ce n'est de vous rendre plus fragile psychologiquement, plus manipulable psychologiquement. Posez-vous la question, faites l'exercice de grâce de ne pas regarder pendant un mois aucune émission, de ne plus écouter la radio pendant un mois. Écoutez, regardez, moi c'est depuis 1982 que je n'écoute plus les journaux télévisés. Bon sang! Est-ce que j'ai l'air complètement anormal? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait quelque chose de ma vie. Parce que j'ai récupéré 4 heures par jour depuis plus de 30 ans à ne pas regarder la télévision. Vous vous rendez compte? Alors, ce que vous pouvez faire, parce que vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a quand même des émissions intéressantes à la télévision. Ça, c'est toujours ce qu'on me raconte. Ouais. Je sais qu'il y a des émissions intéressantes, une parmi beaucoup d'autres. Et puis, êtes-vous sûr que ces émissions vous disent toute la vérité? Vous savez, si vous voulez vraiment avoir des informations fiables, je pense que les livres constitue une source d'information beaucoup moins manipulée et beaucoup moins manipulable que les médias qui dépendent d'énormément d'argent. Plus un média dépend d'argent, plus il est susceptible d'être influencé par des intérêts économiques et financiers. Souvenez-vous de cela. Donc, vous n'êtes pas obligé de devenir ignare parce que vous n'auriez pas de télévision. Vous pouvez très très bien choisir consciemment de vous tourner vers d'autres sources d'informations, peut-être moins manipulées, peut-être plus objectives ou peut-être plus complètes pour vous faire une opinion de différents phénomènes, de différentes questions qui aujourd'hui vous préoccupent. Et puis, vous allez me dire, oui, mais enfin, il faut quand même rester informé de ce qui se passe dans le monde. Attendez, vous rigolez là ? Est-ce que ce que vous voulez, c'est être informé de ce qui se passe dans le monde ? Ou est-ce que vous voulez être désinformé à propos de ce qui se passe dans le monde ? C'est ça la question que je vous pose. Et si vous voulez être vraiment informé, alors allez trouver des sources d'informations qui sont indépendantes. Vous savez, personnellement, je suis au courant de ce qui se passe dans le monde, mais je vais chercher ma source d'information dans des magazines qui ne dépendent pas de la publicité. Je vais chercher mes informations auprès de journalistes qui n'ont pas d'intérêt à cacher certaines informations, comme les médias qui dépendent de holdings dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, oui, vous pouvez être informé de ce qui se passe dans le monde. Personnellement, je suis informé de ce qui se passe dans le monde, mais je choisis ma source d'information de façon beaucoup plus spécifique que ce qu'on vous sert comme soupe tous les jours au niveau des médias. Donc, à partir de là, vous faites ce que vous voulez, mais vous savez quel est le choix que j'ai fait pour respecter ma vie et pour respecter la vie de mes enfants.